Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch en ce mardi 16 avril 2024, il est 11h03, on va faire un tour de l'actualité récente de l'industrie du jeu vidéo. Non, je ne suis pas un spécialiste jeu de rôle, contrairement à ce qu'une récente apparition chez Arte aurait pu laisser penser. Ma spécialité à moi, Gotoz, c'est le jeu vidéo. Enfin, spécialité, n'allons pas non plus jusque là. On va faire bien sûr un tour rapide de quelques chiffres de vente. On fera également un tour du côté des malversations, malveillance peut-être de certains gros éditeurs à l'encontre des consommateurs. On parlera donc un petit peu d'Ubisoft, on parlera également peut-être un petit peu je vais pas mettre tout le monde dans la sauce tout de suite et garder un peu de mystère. Nous discuterons d'un changement de politique éditoriale chez Electronic Arts vis-à-vis de la série Battlefield. Il y aura encore une fois malheureusement des licenciements et on va surtout aller explorer deux sujets qui ont été très présents dans l'actualité du jeu vidéo ces derniers jours, ces dernières heures. D'un côté, eh bien, le succès assez surprenant, ou en tout cas très surprenant pour les nombreux gens qui avaient annoncé que ce serait un échec de la série Fallout, et surtout la manière dont ça vient ruisseler sur les ventes de jeux Fallout. Et puis également le cas Jeff Strain, ancien de chez Blizzard, ancien de chez ArenaNet, qui vient de fermer très violemment deux studios coup sur coup, avec probablement l'une des pires démonstrations de mauvaise communication qui nous a été donnée de voir depuis le début de cette grande crise de la stabilité et de l'emploi dans le jeu vidéo. Vous allez voir, c'est gratiné. Pour les fans de Baldur's Gate 3, une petite info qui, en fait, demande quand même d'être remise en contexte parce que c'est un petit peu à la décision de chacun. Mais avec Baldur's Gate 3 qui vient rafler, qui est venu rafler plusieurs prix au BAFTA, dont celui du meilleur jeu, également celui de la meilleure musique de jeu. Je vous recommande la vidéo de Borislav Slavov, qui en perd absolument tous ses moyens et qui est extrêmement attachant, et on a envie de lui faire un immense bisou parce que c'est une immense consécration pour lui. Bah, Baldur's Gate 3 donc devient le nouveau jeu selon le meilleur jeu de l'an dernier selon les BAFTA, et à partir de là, on pourrait considérer, selon la manière dont on regarde les choses, que Baldur's Gate 3 est devenu officiellement le premier jeu de l'histoire à avoir raflé le prix du meilleur jeu dans les cérémonies majeures de remise de prix anglo-saxonnes, Golden Joystick, BAFTA, DICE Awards, à la GDC et aux Game Awards. Les Origami Awards, bien sûr, lui ont offert également les honneurs du meilleur jeu de l'an dernier. Et finalement, qu'est-ce qui comptait de plus? Ça aurait dû être ça, la titraille. Donc effectivement, un grand chelem, assez hallucinant pour le jeu. Alors, on en a reparlé il y a encore pas longtemps, hein. Pour rappel, ça ne va pas continuer cette collaboration entre Wizards of the Coast et Larian, puisque Larian a peut-être envie aussi de revenir à ses propres licences, n'a peut-être pas non plus envie de trop rester à la colle avec une entreprise, Hasbro en l'occurrence, qui a dégraissé très fort chez Wizards of the Coast quelques mois après le début de l'emballement autour de Baldur's Gate 3 et sa version 1.0, si bien que les gens avec qui travaillait Larian au sein de Wizards of the Coast, les gens qui faisaient toute cette le travail de production, le travail de mise en relation des savoirs et des contenus et des documents, etc., ces gens ne travaillent plus aujourd'hui chez Wizards of the Coast. On le rappelle, 1100 licenciements chez Hasbro qui ont frappé très fort chez Wizards. Avec, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'année 2023, assez curieuse pour Donjons et Dragons, eh bien, j'étais chez Jour de Play, pas plus tard que dimanche, durant le Frame Festival, et je parlais justement de ça. Aussi vrai que j'aimerais garder la vibe que j'avais en début d'année avec Prince of Persia The Lost Crown, il va falloir déjà revenir un petit peu en arrière. De la difficulté, en fait, hein, pour Ubisoft de garder le vote de confiance des joueurs plus de 3 mois après un début d'année, comme je le disais, rassurant avec Prince of Persia The Lost Crown, avec des contenus post-sortie gratuits. En parallèle, la location ou le prêt de la licence Prince of Persia à Evil Empire pour faire Rogue Prince of Persia. Eh bien, l'éditeur est actuellement mis en cause sur plusieurs fronts en même temps, avec d'un côté la question The Crew et de l'autre la question Star Wars Outlaws. Alors, The Crew, pour faire, on va dire, vite, même si vous verrez que je vais quand même prendre un petit peu de temps, ça concerne le débranchement récent des serveurs du jeu, le 31 mars, qui faisait déjà forcément un peu jaser, même si le jeu a 10 ans, et puis ensuite, la rumeur qui s'est répandue comme une petite traînée de poudre, Ubisoft révoquerait carrément les licences d'utilisation de The Crew, ce qui empêcherait les possesseurs du jeu de télécharger ou de lancer l'exécutable qu'ils pensaient avoir acheté. Sur Steam, le jeu demanderait par exemple, si vous essayez de le lancer depuis votre bibliothèque, d'entrer une clé CD. Sur UbiConnect, The Crew aurait glissé dans un onglet à part qui s'appelle « Les jeux inactifs » qui empêche de le lancer. Et en cas d'exécution directe depuis les fichiers, directement sur votre PC, ce serait une sorte de version démo qui se lancerait quoi qu'il arrive. Derrière, les serveurs ne sont pas accessibles et puisqu'on parlait d'un jeu full online, eh bien ça le rendait théoriquement injouable. Cette situation-là, évidemment, elle est en pleine évolution, mais elle nous renvoie naturellement aux bases de la distribution dématérialisée. On n'achète pas un jeu, mais une licence d'utilisation de ce jeu qui est effectivement révocable par l'entreprise qui l'a émis et sans trop avoir, pour l'instant en tout cas, à se justifier. Et les gens espéraient justement... Il y avait des gens qui espéraient essayer de bidouiller le jeu, vous voyez, peut-être réussir à se réunir sur des serveurs privés, bien sûr, sur des serveurs privés, essayer d'en discuter de la question des serveurs privés auprès d'Ubisoft, hein, sachant que, comme vous le savez, ça se discute de plus en plus, tous ces jeux multijoueurs qui disparaissent, alors que d'autres développeurs, eh bien, poussent justement pour que même les grosses entreprises envisagent le fait de donner les clés de ces jeux-là sur un temps plus long après la fin de leur exploitation à la communauté, pour qu'elle puisse continuer à y jouer. Et les gens justement qui espéraient trouver une issue un peu plus favorable pour que The Crew, le premier, puisse continuer à exister dans le paysage, ils sont évidemment un peu énervés, hein. Et ça, comme en témoigne par exemple l'initiative Stop Killing Games qui justement cherche à attirer l'attention des législateurs au niveau national et de l'Union européenne sur le gris légal, parce que c'est donc d'un gris légal qu'on parle, qui permet encore aux éditeurs de faire ça. Alors The Crew en fait est utilisé par l'initiative Stop Killing Games comme une sorte de tremplin et à partir de là, eux veulent essayer d'alerter chez nous les pouvoirs en place, notamment la DGCCRF, donc à propos de ce que eux appellent l'obsolescence programmée de The Crew. Pendant ce temps-là, Ubisoft confirme à demi-mot la manœuvre parce que pendant un temps, on s'est posé beaucoup de questions. On s'est demandé, est-ce que les gens qui se faisaient désactiver leurs clés ne l'avaient pas acheté sur les marchés gris? Quels étaient ces premiers témoignages qui... comment il fallait les lire? Et puis, justement, Eurogamer est allé demander des précisions à Ubisoft sur la désactivation de ces licences et donc l'impossibilité de lancer un jeu qu'on a pourtant, pas sur le papier, mais en ressenti acheté. Et la réponse d'Ubisoft est la suivante. Nous avons annoncé le 14 décembre 2023 qu'après une décennie de support, nous allions décommissionner The Crew le 31 mars 2024. Si nous comprenons la déception des joueurs, c'était une nécessité vis-à-vis de notre infrastructure serveur et de contraintes de licence. Alors c'est vrai que moi je me souviens plutôt lors du 14 décembre 2023 d'une annonce de l'arrêt des serveurs de The Crew. Décommissionner est tout de suite un autre mot qui peut englober beaucoup de choses différentes, mais on voit bien qu'Ubisoft là répond quand même, ne dément pas le fait que des clés de The Crew sont en train de se faire désactiver du côté consommateur. Donc forcément ça donne envie à plusieurs organisations de s'intéresser à ça. On a Stop Killing Games, alors on ne sait pas exactement jusqu'où ils veulent aller parce qu'en l'occurrence on est sur une pétition, jusqu'où peut aller une pétition. On a également le parti pirate allemand je crois qui a essayé d'aller demander je crois, au gouvernement allemand ou à l'Union européenne, si c'était bien légal tout ça. Ils ne démentent pas, effectivement, chez Ubisoft, et quelque part, pour l'instant, ça sert de confirmation du fait que bah, les gens qui semblent être, qui sont sur la piste de ce grill légal très très embêtant et qui risque d'être de plus en plus usé et abusé par les éditeurs, eh bien, il faut le combler, il faut être beaucoup plus clair là-dessus. Donc c'est là, c'est pour ça que je vous disais que c'est un sujet qui est vraiment en développement, qui va continuer à être dans l'actualité, que nous on va continuer à suivre. Ce sera pas toujours dans cette émission, nous on voudrait, on l'a déjà dit il y a pas très très longtemps, approfondir un petit peu tout ça, vous proposer des points de vue différents et vous proposer du temps vraiment pris sur ce qui va être un mal de plus en plus présent pour le consommateur dans l'industrie du jeu vidéo. L'autre sujet Ubisoft, celui-ci il est un peu moins voué à évoluer vu d'ici, ce sont les choix commerciaux qui ont été adoptés par Ubisoft et par Disney autour de Star Wars Outlaws. Et donc c'est un site d'actualité jeux vidéo espagnol qui s'appelle Arena Rugones, je suis désolé pour ce massacre en termes de prononciation, qui a repéré donc sur le site officiel d'Ubisoft le Season Pass de Star Wars Outlaws. Un truc qu'on achète en plus du jeu lors de l'acquisition d'une édition, par exemple Gold ou Ultimate, qui sont vendus respectivement pour rappel à 110 et à 130 euros. Alors, dans ce Season Pass, on retrouve les classiques bonus de précommande cosmétique, hein, ça on a effectivement un peu l'habitude, ainsi que la possibilité de jouer au jeu 3 jours plus tôt que les autres, comme Ubisoft le fait désormais depuis longtemps. Bon là il y a déjà effectivement toute une discussion à avoir, mais c'est pas le sujet, mais ça va vraiment se compliquer ici, très franchement, quand on découvre la suite. En toute candeur, Ubisoft le dit, avec les mots du marketing bien sûr, ils offrent aux acheteurs qui partiront sur des versions Deluxe ou Gold, l'accès instantané à deux DLC qui ne deviendront accessibles que plus tard au reste du monde. À la question, en fait, vous avez coupé un bout du jeu déjà développé pour le revendre plus tard en DLC, il répond « Yes ». Et ça commencera donc avec une mission qui s'appelle le pari de Jabba, donc Jabba le Hutt, ce qui ne fait finalement que alourdir la sensation générale, bah qu'il y a un truc qui cloche, parce que c'est vrai que si c'est le seul endroit où on peut croiser Jabba dans le jeu, quand on voit la place que Jabba a dans le trailer du jeu, ça donne à réfléchir, on vit dans une saucisse, tout ça, tout ça. Bah écoutez, pile pendant que je montais la vidéo, Ubisoft est sorti de son sommeil pour répondre un peu aux inquiétudes du public sur le sujet. Ça leur aura juste pris 3 jours de trop, hein, l'incendie a désormais dépassé c'est largement le raisonnable, mais bon, hey, c'est comme ça. Donc, dans un communiqué transmis à Eurogamer, Ubi précise que Jabba et la race des Hutt, de manière plus globale, ce sont des personnages centraux de la campagne de Star Wars Outlaws, que, en gros, tous les joueurs sont voués à les fréquenter, à les croiser beaucoup en cours de jeu, et que la mission, le pari de Jabba, est totalement secondaire, totalement optionnelle. On serait donc moins sur un DLC scénaristique et plus sur quelque chose de finalement déjà très pratiqué, la quête bonus. Hein. Avatar avait sa quête bonus pour les précommandeurs, Assassin's Creed Mirage avait la quête d'Alibaba pour les précommandeurs, Assassin's Creed 3 avait des missions exclusives selon que vous achetiez le jeu chez Walmart, Best Buy ou Amazon, enfin vous, si vous étiez américain bien sûr, et bah si on sort de chez Ubisoft, les missions bonus aux précommandes c'est effectivement vieux comme Deus Ex Human Revolution, comme Alien Isolation, il y avait ça dans la spéciale édition de Red Dead Redemption 2 et personne n'a rien dit. Disons que sans trouver ça normal ou ok, parce que bah mon vœu pieux ça reste quand même qu'on puisse tous jouer au même contenu produit durant le temps de développement du jeu, et sans faire comme si bah, les prix derrière tout ça s'étaient pas envolés avec les années. Je pense qu'on doit aussi pouvoir se poser la question de pourquoi ça chauffe si fort là, sur ce jeu-là, bon, alors qu'il n'a pas l'air d'être pionnier sur aucune des pratiques pernicieuses qu'il a dans sa musette. La communication a été clairement mauvaise, ça c'est sûr. Mais bon, je suis aussi assez d'accord pour dire que Ubisoft, avec les années, s'est progressivement peint lui-même sur le front un point rouge très facile à prendre pour cible. Si on ajoute à ça le côté très inflammable des communautés Star Wars, et puis les gens qui voudraient juste voir le jeu échouer pour une raison ou pour une autre, je pense qu'on tient un petit cocktail d'indignation prêt à consommer, et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé là. Après, je le répète, loin de moi l'idée de défendre la pratique en elle-même ou même de valider le truc au prétexte que bah ça existait déjà avant, ça me fait chier tout pareil, mais la réponse d'Ubi me permet de préciser un peu les choses au montage et ça c'est toujours cool. Bah, forcément, hein, on voit un Ubi qui cherche un petit peu à tester les limites ou en tout cas continue, bah, on n'est pas vraiment dupe, hein, on sait que c'est voué à être comme ça. comme d'autres le font hein, d'ailleurs, hein, puisque ce week-end, ou en tout cas il y a quelques jours, c'était l'ex-PDG de Blizzard, Mike Ibarra, qui déclarait sur Twitter qu'il était favorable, ou en tout cas qu'il serait favorable, bref, on en parle, on en discute, on est là pour débattre, un système de pourboire pour que les joueurs puissent donner 10 ou 20 dollars de plus à un jeu qui le mérite. Les fameux pourboires, mais pour le patronat. Une évolution naturelle de l'horrible culture de la précarité qui sévit aux États-Unis, mais sans même que l'argent n'aille à ceux qui bossent. Je schématise quand je dis le pourboire ira en haut de la chaîne. C'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que c'est l'idée d'introduire un pourboire dans le jeu vidéo est beaucoup trop volatile. Surtout que lui proposait un truc genre, imagine si une fois que t'as fini un jeu, bon bah voilà, on te propose gentiment un petit formulaire pour savoir si tu voudrais donner 10 balles, 5, 10, 15, 20 balles de plus. Je pense absolument pas que ça tombe directement dans la poche de Mikey Mike. En revanche, je vois très vite arriver, et vous la voyez aussi, il faut pas être non plus sorti de Saint-Cyr pour voir le moment où une partie de la rémunération ou des bonus d'un jeu pourrait être indexé sur ce système des développeurs et des développeuses, pourrait être indexé sur ce système de tipping. Enfin, c'est aussi clair que ça, sachant que rares à mon sens sont les jeux où une fois que tu l'as terminé, quand t'as payé 80 balles, tu te dis je vais mettre 10 balles. Ça pose la question de comment tu fabriques ton jeu. Est-ce que justement tu viens chercher derrière, tu te retrouves avec des éditorialement, peut-être des gens en interne un peu plus haut qui poussent pour que bah il y a un truc choc à la fin, pour qu'il y ait un truc ah là là où tu te dis ah la vache, il faut qu'il continue à faire des jeux. Enfin, ça pose tellement de questions, c'est tellement pas ok sur un nombre incalculable de points. Faut pas croire hein, ces tweets là on peut les regarder un peu de loin, on peut se dire bah tiens il a été con sur internet celui-ci, mais ça c'est typiquement le genre de tweet qui n'est pas une parole en l'air. C'est un mec qui a vraiment... C'est pas juste un type qui est là et qui se dit « Tiens, j'ai pas eu ma balayette aujourd'hui, quoi. » Derrière, à mon sens, t'as un social media manager qui va analyser un petit peu les réactions, qui va peut-être produire un petit rapport là-dessus. Tout ça, c'est vraiment des gens qui testent l'eau du bain, qui testent l'opinion générale sur l'ouverture de la fameuse fenêtre dont on parle régulièrement ici au petit niveau, on va dire, du jeu vidéo, pour demain et pour après-demain. On rappelle que Mike Ibarra, depuis peu de temps, n'est plus président de Blizzard. Cependant, effectivement, il a été, durant sa mandature, le visage tout de même eh bien, de... On va dire l'aveu d'échec final de Overwatch 2, mais également le visage de nombreuses équipes chez Blizzard, eh bien étriées par la très grande opération de réduction des coûts et de licenciement de Microsoft Activision. Donc, on en revient un petit peu toujours au même à la même chose. Pourquoi tu parles ? Pourquoi tu te tais pas, genre juste un ou deux mois de plus, le temps qu'on ait oublié? Internet oublie extrêmement vite. C'est quand même pas difficile d'attendre un petit peu plus. Pourquoi il faut absolument qu'à ce moment-là, tu essaies de juste proposer qu'on introduise la culture du type, un des pires trucs du système de précarisation des petits emplois aux États-Unis dans le jeu vidéo, mais pour ta tronche. C'est fou le nombre de situations qui pourraient être réglées si, j'allais dire, si il savait se taire un tout petit peu plus longtemps, mais en vérité, s'il était son petit écusson bleu sur Twitter, il va lui rapporter quoi ? Alors ça va être difficile de ne pas parler de Fallout ces jours-ci, hein, parce que voilà, avec la sortie de la série télé chez Amazon Prime, il y a un sentiment globalement positif autour de la licence, sentiment sur lequel évidemment Bethesda allait vouloir surfer à mort. Figurez-vous que Fallout 76 est free-to-play jusqu'au 19 avril avec moins 80% sur son prix d'achat pour qui voudrait le garder ensuite, ce qui a fait que le jeu a atteint son plus haut pic de joueurs historiques sur Steam ce week-end, pendant que à côté on retrouve à nouveau Fallout 4 et Fallout 3 avec des courbes qui se sont à nouveau envolées. Alors ça marche un petit peu moins bien pour Fallout 1 et 2, et pourtant ça marche aussi pour New Vegas, ça c'est cool, mais pour 1 et 2 évidemment un peu moins vu l'âge de ces jeux là et c'est dommage parce que la série eh bien envoie beaucoup plus de coups de coude à Fallout 1 et 2 qu'on aurait pu l'imaginer à la base. Alors bien sûr, Fallout 76, faut remettre les choses en contexte, il n'a pas commencé sa vie sur Steam, il a commencé sa vie sur le Bethesda Game Launcher, et ensuite est arrivé sur Steam à l'occasion du lancement de la mise à jour Wastelanders. Donc le grand lancement de Fallout 76 n'a pas eu lieu sur Steam, c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec la sortie de la série, eh bien il a fait plus haut qu'il n'a jamais fait en termes de fréquentation. C'est parce que c'était déjà une deuxième vie pour le jeu. Et évidemment, ça, eh bien, ça se passe avant l'inévitable patch next-gen de Fallout 4 qui va arriver dans le mois de sortie de la série télé, bien sûr, le 25 avril, pour prendre l'aspiration à son tour, donc sur PS5 et sur Xbox Series. Alors bon, le patch next-gen de Fallout 4, c'est un peu une arlésienne tout de même. Il a été repoussé plein de fois. On comprend évidemment qu'il a fallu préserver une sorte d'espace un peu neutre autour de la communication et de la sortie de Starfield. Mais le voici donc qui s'annonce pour dans une dizaine de jours. Et s'il y a bien un groupe de personnes qui auraient aimé savoir ça en avance, ce sont les développeurs de Fallout London. C'est un immense projet de mode façon totale conversion de Fallout 4 qui devait sortir le 23 avril. En termes de contenu, l'équipe a toujours dit ça aura la taille d'un DLC officiel de Fallout, sauf que l'arrivée d'un tel patch, eh bien ça peut absolument tout faire péter pour cette équipe de modding, si bien qu'après quelques jours de réflexion, eh bien, l'équipe a décidé de repousser Fallout London indéfiniment. Il ne sortira pas dans quelques jours, le temps de voir ce patch next-gen sortir de chez Bethesda, d'évaluer la portée de son incidence sur leur travail à eux, puis de se refixer un nouvel horizon de sortie quand tout ça sera remis en compatibilité. Ça doit forcément grincer un peu fort chez la team Fallon. Donc la team Fallon, c'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est comme ça qu'ils se sont baptisés, les développeurs de Fallout London. C'est une équipe qui avait déjà vu plusieurs membres se faire débaucher par Bethesda, au moins 3 si mes souvenirs sont bons, et qui prend plein de fois et qui prend en pleine tête le manque de considération des développeurs de Fallout, qui en plus par devant ont plusieurs fois mis en avant l'existence future de Fallout London pour prouver la vivacité de la scène modding de Fallout 4 pour vendre Fallout 4. Tout ça pour ne même pas mériter un mail chez la team Fallon quand la sortie de la version next-gen de Fallout 4 tombe malheureusement 2 jours après la date que eux s'étaient fixés pour venir couronner des années de boulot bénévole sur l'univers de Fallout de manière générale. Ils ont appris le truc de la même manière que nous dans une bande-annonce, alors que d'habitude, ils avaient des contacts manifestement, ou ils avaient déjà pu avoir des points de contact avec Bethesda là-dessus. Donc forcément, ça doit grincer un petit peu, mais eux vont essayer de trouver les solutions qui iront à l'équipe, pour à la fois vite évaluer la casse qui serait engendrée par ce patch next-gen, et puis pour peut-être garder aussi à leur tour l'aspiration de cette licence, parce que évidemment qu'à ce moment-là eux devaient se dire c'est cool, on va sortir le même mois que la série télévisée Fallout, ça va entraîner une espèce de hype un peu générale. En ce moment on parle toutes et tous de Fallout, et en l'occurrence pourquoi pas effectivement faire réinstaller F4 à plein de gens pour jouer à un mode, une totale conversion. En plus, j'en ai parlé chez Arte dimanche, mais la proposition, c'est aussi de faire le Fallout qui culturellement n'intéresse pas Bethesda. Bethesda, avec Fallout, n'est finalement intéressé que par l'Americana, la fin du monde vue par la lorgnette de la société américaine. Et donc là, effectivement, il y a une autre proposition, il y a un tout autre point de vue, il y a une autre culture qui est proposée là et qui vient effectivement proposer ce qui reste un angle mort à la base pour le studio. Donc pour Fallout London, il faudra se montrer un peu plus patient que ça. Et finalement, c'était pourtant pas le truc le plus fou de ce week-end dédié à Fallout, puisqu'on a également l'un des hommes forts de la licence chez Bethesda, qui s'appelle Emil Pagliarulo. Je sais pas ce qui lui a pris, lui aussi il se faisait un peu, il s'embêtait un petit peu devant Twitter l'autre jour, et il a voulu livrer aux fans de Fallout un petit trivia rigolo. Vous savez, comme quand on dit hey, vous aviez lu mon bouquin, vous saviez que en fait dans ce que je n'ai absolument pas mis dans le bouquin, eh ben ce personnage là, eh ben en fait voici sa backstory. Quand on réécrit un petit peu l'histoire, et catastrophiquement, Emil Pagliarulo a décidé de nous expliquer qu'un personnage de Fallout 4 très important, qui est censé être un moteur quand même dans l'histoire du jeu, eh bien en fait était visible en armure dans l'intro d'un des vieux Fallout, visible en armure en train de se, si mes souvenirs sont bons, de se bidonner à côté d'un de ses collègues qui commet un crime de guerre. Du coup, la question qui a été posée à Emil Pagliarulo tout le week-end, c'est: est-ce que tu es en train de nous dire que ce personnage pour lequel on est censé avoir une immense empathie pour ne serait-ce que vouloir avancer dans Fallout 4 est en fait un criminel de guerre? Et là, je pense que Emil a dû se dire: ok, je crois que c'est le pire dimanche. Donc voilà, et effectivement, ça a été une petite débâcle. Il a fallu qu'il repasse arrière ensuite sur ses réseaux sociaux pour dire non, mais en fait, attendez, c'était peut-être un petit peu une blague, ou peut-être que j'ai pas vraiment réfléchi à ce que je vous disais quand je vous disais ça. À la base, ça devait vraiment être une sorte de wink-wink. Sauf que là, les fans de Fallout, ils sont à cran. Ils sont en train de connecter toutes les petites choses entre elles. Ils sont en train de connecter les indices qui sont donnés par la série. Ils revisitent leurs souvenirs des différents jeux. Là, le theory crafting, si t'es dans le lore de Fallout, il est à fond. C'est pas le moment d'arriver avec ce genre de proposition. Je suis sûr qu'une personne vous en fera un très bon débrief, et ce sera certainement Isual qui ne manquera pas de vous en parler, j'imagine, dans Ketamine, donc son émission dédiée au jeu de rôle, parce que je pense que lui, il a dû regarder ça en mode « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Après, il faut savoir aussi que Emil Pagliarulo, il a une vieille histoire aussi avec les Fallout 3D, et a parfois été vu comme l'un de ceux qui justement avaient contribué à une autre compréhension du propos de Fallout chez Bethesda. Nintendo ne sera pas présent à la Gamescom 2024. Attendez, on va essayer de jouer les surprises. L'information, elle nous vient d'un magazine allemand qui s'appelle Gameswirtschaft. Donc Nintendo leur a confirmé que l'entreprise serait absente de la Gamescom cette année. Si le constructeur rappelle bien sûr une fois de plus que voilà, la Gamescom c'est important dans son calendrier, eh bien on a quand même un porte-parole de Nintendo of Europe qui précise que l'entreprise a pris la décision de ne pas en être cette année. Je cite: à la place, les joueurs pourront essayer les jeux Nintendo Switch dans d'autres événements organisés en Allemagne. Si on avait besoin d'une confirmation supplémentaire, bien sûr que la descendance de la Switch, eh bien, elle serait désormais plutôt prévue pour début d'année 2025. Eh bien, je pense qu'on l'a là sous les yeux. Nintendo a régulièrement misé sur la Gamescom pour ses grosses cartouches. Et on sait, par exemple, que l'an dernier, eh bien, ils étaient présents sur la partie publique des choses, mais aussi sur l'aspect privé. Leur prochaine console, elle s'approchait dans des rendez-vous dédiés surtout à des techniciens, à des ingénieurs du jeu vidéo, de manière extrêmement confidentielle, aux abords du salon. Là, forcément, entre une machine qui va prendre un peu plus son temps, mais qui a déjà été montrée aux développeurs qui ont besoin de la voir, je dis pas, peut-être qu'il restera une partie privée où les pros et la presse pourra s'approcher, mais j'ai quand même un petit doute. Et puis également un catalogue 2024 qui est quand même tout en calme et en espèce de saveur de fin de génération. Il n'y a rien finalement de bien étonnant à voir Nintendo faire cette économie. On le rappelle, aller sur un salon comme la Gamescom, c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de dépenses. On imagine bien sûr que ça n'enchante absolument pas les organisateurs de l'événement, puisque pour rappel, la Gamescom est un salon à la fois public et privé, et la partie publique, ça draine des centaines de milliers de personnes qui viennent aussi jouer au jeu Nintendo. Mais à un moment, voilà, t'es pas sur une année de Mario, et puis t'es pas sur une année de Zelda. On rappelle que cette année, on était plutôt sur Another Code, Mario versus Donkey Kong, qui est un petit jeu Nintendo, Princess Peach Showtime, considéré par certains comme un petit jeu Nintendo. On a Endless Ocean qui arrive le 2 mai, la version, enfin Endless Ocean Luminous, pardon. On a Paper Mario, la porte millénaire, en relecture le 25 mai. On a Luigi's Mansion 2 HD le 27 juin. Enfin, vous voyez un petit peu le truc, quoi. On est sur cette année où tu vas quand même pas aller déclencher l'installation d'une cinquantaine ou d'une soixantaine de bornes pour des titres, on va dire, de ce calibre-là, d'autant que cela sorte avant la Gamescom en l'occurrence. Donc on est sur une année calme, et Nintendo of America a décidé de la jouer calme. On verra, bien sûr, hein, on n'est pas là pour confirmer, infirmer les questions liées à la Switch 2, on va l'appeler comme ça pour plus de facilité, mais voilà, comme c'est ce qui a été déclaré très récemment par Nintendo of Europe. Et puis, en restant chez Nintendo, on peut aussi parler un petit peu de Gio Corsi, hein, d'ailleurs, qui est donc... On a récemment appris en fait que la branche américaine, cette fois-ci, et non pas européenne, de Nintendo, elle avait recruté ce vieux de la vieille pour venir chapeauter les futurs partenariats de Nintendo avec les développeurs, et notamment les développeurs de jeux AAA. Donc Gio Corsi, c'est un ex LucasArts à la base. Il me semble que ça, son premier contrat long et sa première existence longue dans le jeu vidéo, c'était chez LucasArts. Il avait rejoint PlayStation en 2013 et il y avait justement là-bas assurer ce type de relation à la fois avec les éditeurs tiers de jeux AAA, mais aussi un petit peu avec les indés. Hein. C'était les grandes années PS Vita, celle de Gio Corsi. Il en était l'un des grands défenseurs, aussi bien en interne que publiquement, hein, l'un des visages effectivement de l'amour de Sony pour la PS Vita. Et c'est grâce ou à cause de Gio Corsi que, ça je vous laisse juger, que voilà, on a vu parfois des jeux un petit peu trop ambitieux pour la portable de Sony, et bien essayer de s'y rentrer un peu au chausse-pied, comme par exemple Borderlands 2, mais il y a d'autres exemples, hein, il me semble même dans la licence Resident Evil. Et donc Gio Corsi, c'était aussi un travail de fond pour que la série Yakuza reçoivent à nouveau des localisations hors Japon. On rappelle qu'à un moment, vraiment, hein, quand on l'appelait encore Yakuza, nous ici, par la série Like a Dragon, eh bien, c'était complètement désintéressé de toute cette distribution hors Japon. Et c'est quelque part aussi un peu grâce à lui, eh bien, que Yakuza 5 a obtenu une localisation très tardive sur PS3, et ce serait via cette localisation eh bien que la licence aurait eu un tout autre destin et retrouvé un destin, et le destin international qu'on connaît aujourd'hui. Tout ça, ça faisait partie d'une initiative de Gio Corsi chez PlayStation qui s'appelait Building the List. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette initiative. En gros, c'était un petit peu « Hey, moi je suis là pour aller étendre les partenariats de PlayStation. Donc, on est sur les réseaux sociaux, on est entre nous. À l'époque, ça allait encore. Dites-moi ce qu'il vous manque sur PlayStation et j'essaierai de vous l'amener. » Alors, il y a des gens qui ont dit Grim Fandango. Et c'est via Gio Corsi notamment et ses contacts à l'époque, hein, LucasArts et puis ensuite Double Fine, qu'on a pu avoir Grim Fandango Remastered et annoncé, pour rappel, dans une conférence PlayStation, ce qui était quand même un peu fou à l'époque. Moi, je me souviens que mon cœur s'est arrêté une seconde. Et puis, c'est également via Gio Corsi, entre autres choses, via Building the List, et bien que a commencé à se formuler un souhait sur Internet, un souhait qui s'est concrétisé à moitié durant la fameuse conférence 2015 de PlayStation à l'E3. Eh bien, c'était la demande de Shenmue 3, hein, justement. Shenmue 3 qui sera accompagné en partie par PlayStation, mais surtout par les gens qui l'ont soutenu sur Kickstarter. Et voilà, c'est un petit peu son leg à l'époque de PlayStation à ce monsieur. Donc, avoir effectivement participé à faire revenir Yakuza en version localisée et voilà, en version un petit peu aussi resserrée avec des liens plus forts avec PlayStation of America, etc. Et Gio Corsi, aujourd'hui, eh bien, rejoint Nintendo of America pour travailler au contact des partenaires de la future console. Il avait quitté PlayStation en 2019, il était ensuite passé chez Ilphonic, et puis ensuite il était directeur commercial au sein du studio Iron Galaxy, studio de portage, de co-développement. Récemment, ils ont fait Rumbleverse. Donc là, on est quand même sur un retour dans la Big League pour Gio Corsi. Il me semble que justement, chez Iron Galaxy, il avait rejoint Adam Boyes, un autre garçon de chez qui était très mis en avant par PlayStation, il fut un temps. Et donc là, retour effectivement chez PlayStation et PlayStation of America pour discuter avec les éditeur AAA sur la prochaine console qu'on n'appelle toujours pas la Switch 2, sauf qu'on n'a rien d'autre pour le moment. Direction Electronic Arts, la semaine dernière, il y a eu un gros chassé-croisé de rumeurs et de sources plus ou moins bien comprises qui ont fini par se fixer et s'accorder les unes aux autres, pour finalement réussir à esquisser ensemble certaines des trajectoires de studio actuellement chez Electronic Arts. Ça va concerner les séries Battlefield et Dead Space, et le premier truc à savoir, c'est, et ça c'est vraiment officiel, c'est que les travaux de rénovation vont bientôt s'arrêter sur Battlefield de 2042. Donc 2 ans après une sortie sous forme de gros plat, qui fait du bruit, eh bien le jeu s'est pas mal retapé, mais EA considère sans surprise que le futur de la licence n'est pas là-dedans. Donc la 7e saison de Battlefield de 2042, qui s'appelle The Turning Point, sera la dernière. Le directeur de la marque Battlefield, qui s'appelle Brian Breed, dit qu'il est temps de passer à la suite, aussi bien pour DICE que pour Electronic Arts, qui veulent... Et attention, vous l'avez déjà entendu ce truc-là. Depuis la sortie de Battlefield 2042 et depuis le fait que, depuis qu'on est tombé OK sur le fait que ça avait pas mal floppé tout de même, on parle d'aller déverrouiller le plein potentiel de jeu en escouade de la série. Ce leitmotiv-là, on y est un petit peu habitué. Et c'est pour lui que EA a ordonné la création au sein du studio EA Motive d'une division Battlefield qui sera pilotée par, ou qui est pardon, déjà pilotée par les deux managers de l'équipe qui a rendu la copie Dead Space Remake. Donc cette équipe, elle va travailler côte à côte avec d'autres studios Electronic Arts comme Criterion, comme DICE et comme Ripple Effects pour aider à développer Battlefield, et là encore, je cite, avec des expériences à la fois multijoueur et solo. EA Motive, c'est les gens qui ont fait Star Wars Squadron, pour rappel, ainsi que Dead Space Remake, donc, et c'est aussi là-bas qu'opère une équipe qui travaille toujours sur le jeu Iron Man d'Electronic Arts et de Disney, dont le développement a priori serait en bonne voie, en tout cas si on en croit les officiels de l'entreprise. De ce que les rumeurs les plus solides laissent entendre, l'équipe, elle aurait l'an dernier effectivement exploré, avec l'accord d'Electronic Arts, la possibilité de produire un nouvel épisode de Dead Space, sans Visceral bien sûr, puisque Visceral n'existe plus, et finalement c'est un projet qui n'aurait pas eu le feu vert d'Electronic Arts, qui a préféré faire, on va dire, une Activision et réarmer tout ce petit monde direction la licence Battlefield. Et il y avait une autre rumeur effectivement qui parlait d'un projet de remake de Dead Space 2 qui serait bien en route. En fait, ça avait été envisagé pendant un très court temps, mais c'était surtout plutôt un projet d'un nouveau Dead Space qui avait été envisagé. En fait, l'incompréhension selon les émetteurs des différentes rumeurs vient du fait que chez EA Motive, on peut tout à fait, en fait, avoir un nom de code de projet qui peut désigner plusieurs jeux, parce que le nom de code de projet désigne en fait le projet actuel de telle équipe. Donc bah, si le jeu change à l'intérieur, eh bien il porte le même nom de code, ce qui bah, forcément, quand on est habitué aux rumeurs de jeux vidéo qui utilisent des noms de code par projet de jeu, eh bien a pu mettre des gens un petit peu dans la galère, et c'est finalement Jason Schreier qui est venu un petit peu clarifier tout ça. Donc oui, Battlefield nécessite manifestement de la part d'Electronic Arts, eh bien qu'on vienne faire collaborer un maximum de studios différents, sachant encore une fois, il ne faut pas l'oublier, qu'ils ont récemment fermé un studio lors des récents licenciements, un studio qui devait travailler à la base sur la série Battlefield, où il y avait notamment Marcus Leto, celui qu'on appelle généralement le papa de Master Chief, donc c'était chez à San Francisco. Comment s'appellent-ils ces jeunes-là? Comment s'appelait-il, il y avait Ripple Effect qui travaillait dessus, il y avait DICE, il y avait Respawn, enfin Respawn qui chapeautait tout ça, et il y avait ce studio à San Francisco qui a fini par fermer, et c'est finalement une division de chez EA Motive qui va aller travailler dessus à la place de ce studio. Il faut que je fasse mon petit montage dessus. Ridgeline Games, voilà, c'est Ridgeline Games qui a été fermé récemment. Donc bah voilà, on a toujours un petit peu dans ce genre de news envie de d'envoyer de la force aux gens qui travaillent dans les studios et qui pensaient qu'ils allaient pouvoir travailler sur des trucs différents, et qui finalement se retrouvent tous à travailler sur Battlefield, qui est quand même une série qui, pour rappel, bien sûr, est en déclin, mais doit réagir, on l'imagine, pour les grands financiers d'Electronic Arts, dans la mesure où, de l'autre côté, Activision est désormais, Activision est chez Microsoft, et Call of Duty, va peut-être bénéficier de petites surprises, de petites améliorations, de petites nouveautés, qui sait, sous le... Je crois absolument pas à ce que je dis, ça se voit, que je crois pas au fait qu'ils changent quoi que ce soit à la manière de fabriquer ou de vendre des Call of Duty. J'aurais essayé de vous le faire croire en tout cas. Et on reste chez Electronic Arts, hein, parce que voilà, pendant ce temps, les petits licenciements de masse permettent chez Electronic Arts de patienter entre les gros licenciements de masse, parce que sinon, effectivement, on s'ennuierait. C'est un peu la méthode hein, chez Electronic Arts. Ils vous annoncent de temps en temps, oui, cette fois-ci, on licencie 600 personnes, et on tient à le dire, mais le reste du temps, il y en a 80 qui jartent ici, 500 qui jartent de là, et ça n'arrête pas. Donc, selon plusieurs sources qui ont été entendues par Insider Gaming, que j'ai pas trop l'habitude de citer ici, mais qui confirme ses envies de suivre les galères humaines au sein des studios, ou en tout cas, au sein des studios concurrents de Call of Duty. Pour le reste, on attendra que Insider Gaming confirme sur son envie de faire du social. Selon Insider Gaming, donc, une quarantaine de personnes qui étaient rattachées à l'assurance qualité de Apex Legends au Royaume-Uni ont appris que leurs contrats, qui étaient déjà, pour rappel, des contrats précaires et renouvelés en boucle, eh bien, ne seraient pas renouvelés avec une méthode qui est désormais bien connue, bien théorisée, le petit appel groupé sur Zoom, sans prévenir personne, surtout pas les middle managers, à l'issue duquel une partie de l'équipe eh bien, se retrouve en préavis de départ. Avec un Electronic Arts qui serait a priori et qui aurait été durant cette annonce très clair, rien à voir avec les performances des équipes qui, selon plusieurs témoins entendus encore une fois par Insider Gaming, eh bien, avaient atteint tous leurs objectifs. Il s'agit de, entre guillemets, restructurer le business, c'est-à-dire plus prosaïquement délocaliser là où c'est moins cher, comme le fait Electronic Arts à coup de frappe commando plusieurs fois par an depuis près de 10 ans maintenant. Hein. Moi, je vous ai parlé un nombre incalculable de fois de EA Galway. Et pour vous donner un ordre d'idée un peu récent à propos de EA Galway, dites-vous que, eh bien, quand on se retrouve effectivement sur une charrette d'une soixantaine de personnes et que les Electronic Arts se disent qu'ils vont essayer de proposer des replacements à certaines personnes, eh bien, dans le cas de la dernière charrette chez Galway, pour 60 personnes parties, il y a une quinzaine de personnes qui ont fini par être retrouvées du boulot chez Electronic Arts, sans avoir du coup à se faire jarter et à devoir effectivement rechercher du boulot. Donc c'est quand même effectivement très minoritaire. Et encore, de ce que je sais, c'était plutôt cette fois-ci c'était un bon chiffre. Et on va rester encore un petit peu chez Electronic Arts, en tout cas dans le EA-verse, avec Ascendant Studio, donc le studio californien derrière le très très ignoré Immortals of Aveum. Souvenez-vous, hein, ce FPS entre guillemets par des anciens de la licence Call of Duty, avec des sortilèges, un FPS à base de magiciens qui était sorti sous le label EA Originals, donc Electronic Arts Originals. L'entreprise, elle avait sorti son jeu au début de l'été 2023 et elle s'était séparée de la moitié de ses 80-100 employés à peine un mois plus tard, soit juste assez de temps pour constater l'ampleur du flop. Un flop qui a été grandement attribué par la suite par le réalisateur du jeu à des choix tarifaires, notamment le choix tarifaire assez funeste hein, de faire un jeu plein pot par une équipe inconnue du grand public, sous un label que Electronic Arts dédie d'habitude plutôt à des jeux qui coûtent 20, 30 ou 40 euros. Et donc le futur du studio était déjà bien dans la balance, hein, on l'avait compris, et on a appris ces jours-ci que l'intégralité des employés restants, soit une trentaine, voire une quarantaine de personnes, avait été placée au chômage technique, chose que l'industrie du jeu vidéo, elle, en tout cas dans sa forme moderne, associe souvent à une sorte de pré-fermeture. On se souvient que ce même réalisateur avait appelé l'industrie à considérer les gens de chez Ascendant Studio au moment de rechercher des partenaires en co-développement, par exemple. Mais on ne sait pas vraiment s'ils avaient trouvé de quoi tenir jusqu'ici ou non. Est-ce qu'ils avaient trouvé de quoi tenir et ils ont perdu ce partenaire? Est-ce qu'ils ont épuisé leurs ressources? En tout cas, voilà. Une fois de plus, je recommande chaudement cette interview du directeur artistique du jeu dans le podcast Remap Interview. Donc Remap, je vous le rappelle, un média fondé par des anciens de Waypoint. Et justement, c'est un témoignage qui est assez rare, qui revient sur ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, bien sûr, dans la tête d'un directeur artistique, qui est un haut cadre de l'entreprise. Et après, il ne peut pas vraiment parler pour le ressenti pour les petites mains de son studio. Faut pas oublier ça non plus. Ce qui se passe quand un développement long de 5 ans aboutit sur une sorte de grand silence comme ça a été le cas pour Immortals of Aveum. Je vous le rappelle, donc, c'est disponible sur le site de Remap. Et donc, ils ont les podcasts Remap Radio et le podcast Remap Interview. J'ai apporté trois bonnes annonces. Vraiment juste pour qu'on respire un petit coup avant de repartir, parce que derrière vous allez voir, et ça va être sport. Je vous propose directement de parler de The Splintered Sea, vraiment le DLC qu'on n'imaginait pas forcément venir pour Besiege. Oh oui, ça a l'air bien ça. Besiege de Splinter Sea, donc sorti le 24 mai, soit dans 5 semaines. Eh oui, déjà, donc un DLC pour Besiege, si vous connaissez un petit peu le jeu. Donc on fabrique des armes de guerre qui doivent à la fois détruire des hordes d'ennemis, mais aussi survivre justement à l'arrivée de ces hordes. Et donc c'est toujours fait par Spiderling Studio, ça n'a pas bougé, hein, c'est le même studio qui s'en occupe. Alors je connais pas exactement le prix de ce DLC, en revanche sachez qu'il proposera une espèce de mini-campagne d'une dizaines de missions, et après on l'imagine peut-être aussi quelque chose de l'ordre du bac à sable. Mais donc voilà, c'était la première bande annonce, et j'ai essayé de varier un petit peu les apparences de jeu, puisque la prochaine sera dopée à un maximum de gros pixels. On va parler de Lifecraft. Lifecraft, c'est de l'automatisation. Pour fabriquer quoi? Pour fabriquer des merdes, des télés, des machins, des... Non, de l'automatisation pour fabriquer la vie. J'espère que le logo est assez clair sur le projet avec Lifecraft. J'ai l'impression qu'il est assez clair. Lifecraft, ça sort aujourd'hui. Eh oui, ça sort aujourd'hui en accès anticipé sur Steam. Et c'est comme vous pouvez l'imaginer, une sorte de factorio biologique où on va organiser la rencontre, je sais pas moi, d'acides aminés. Attendez deux secondes. Je retourne au collège, quand j'étais bon à tout ça. On va pratiquer la mitose. Et en même temps, c'est un jeu pour Mintos. Vous voyez ? Comme quoi, vraiment, le monde est extrêmement bien fait. Bref, c'est développé par Pixbits et ça arrive dès aujourd'hui, dans 3 heures, sur l'accès anticipé de Steam. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion de vous le montrer. Je ne sais pas si on aura l'occasion de vous le montrer. Mais voilà, effectivement, des bruitages ASMR qui ne sont pas forcément pour tout le monde. Moi, ces petits bruits de gargouillou, là, j'aime bien. Mais je vois que sur le chat, il y a des gens que ça a légèrement déclenché. On va donc changer de sujet et se pencher sur The Vigilante Diaries. C'est le nouveau jeu des créateurs de Call of Duty et American Arcadia. Donc oui, déjà, en fait, il y a déjà un nouveau jeu dans les cartons, un petit peu différent, un petit peu, voilà, de plus petite taille aussi. On va suivre le quotidien d'une sorte de super-héros vengeur autoproclamé qui, bon, bah, vraiment dans son design, ressemble au costume de Bruce Willis dans Incassable. Et ensuite, il va falloir faire des choix. Des choix moraux et quelque part aussi politiques. Eh oui, ouais, forcément, hein, quand on commence à tabasser des gens dans la rue, oui, c'est sûr. Une histoire par Out of the Blue qui s'appelle The Vigilante Diaries. Pour l'instant, on n'a pas encore de date de sortie, sinon qu'on sait que ça va sortir durant cette année. Serez-vous plutôt le gentil Spider-Man, le gentil voisin, ou serez-vous plutôt peut-être Rorschach? C'est la question que propose le jeu, et vous, voilà, je vois sur le chat des gens qui disent du gameplay, c'était le gameplay, puisqu'on est clairement sur quelque chose de l'ordre du visual novel, avec des passages dans un carnet, etc. N'imaginez absolument pas qu'il va y avoir des phases de baston, hein. On rappelle que c'est les développeurs de Call of the Sea et de American Arcadia. Donc non, et puis en plus, voilà, on voit bien effectivement. Pour être prolifique comme ça, on sent que c'est un plus petit projet et que ça va être un projet narratif. Voilà. On va parler de Jeff Strain, qui est un ancien cadre de Blizzard, devenu ensuite cofondateur d'ArenaNet, puis fondateur de Undead Labs, donc les gens qui ont géré le projet State of Decay. D'ailleurs, il était leader sur le projet State of Decay 1. Jeff Strain, c'est ce patron qu'on lisait à l'été 2021, en pleine explosion des scandales liés à son ancien employeur, Blizzard. Il appelait toute l'industrie du jeu vidéo AAA, bien sûr, à embrasser la syndicalisation, à prendre en compte les désirs de regroupement des travailleurs et des travailleuses pour cultiver des équipes qui soient pérennes et qui soient fortes et qui soient symbiotiques, etc., etc., etc. Et à l'époque, justement, si Strain jouait à ce point le joli cœur et le chevalier au cœur pur, c'est parce qu'il avait besoin de recruter, hein, non pas pour un studio, mais pour deux. Souvenez-vous, hein, en 2021-2022, on parlait beaucoup de la grande difficulté pour les studios qui essaient de faire du triple A avec de nouvelles équipes, de recruter des gens opérationnels pour ça, et on manquait littéralement d'équipes prêtes pour ce genre de projet. Donc deux studios, comme je le disais, Crop Circle Games d'un côté et Possibility Space de l'autre, deux entreprises fondées entre 2021 et 2022 sous l'égide de Britannia Media. Britannia Media, c'est la société de Jeff Strain et de sa femme Annie Delisi Strain. Je vous laisse un peu digérer, parce que quand même, ça va devenir assez compliqué assez rapidement. Le point commun dans les deux cas de ces entreprises, des partenaires volontaires du côté de la finance, de belles ambitions, genre ne pas tomber dans la course aux tendances, mais aussi être allé débaucher pas mal de vétérans ou de professionnels de longue durée, du jeu vidéo. Et donc, les studios Britannia Media, il y a 3 ans, c'était un slogan unique: on a de grandes ambitions et les moyens qui vont avec. 3 ans plus tard, c'est finito. Crop Circle a d'abord licencié le mois dernier, puis cessé complètement ses opérations, et c'est maintenant Possibility Space qui ferme et qui licencie tout le monde. Ils ont été ouverts dans l'espace d'un an, et ils sont fermés coup sur coup en l'espace d'un mois. Les points communs ne s'arrêtent pas là, puisque les deux équipes racontent aujourd'hui la violence des méthodes. Et il faut qu'on se penche dessus, parce que certes, ce n'est pas quelqu'un dont on connaît le nom, mais ce qu'on va voir là, ce que je vais vous raconter là, est quand même assez délirant. Il y a d'abord eu Crop Circle Games, dont certains développeurs sont rentrés de la GDC, pour trouver sur le site officiel du studio un communiqué qui ne leur avait pas été partagé en amont par la direction, une déclaration qui disait en gros que le projet de jeu du studio n'était pas viable financièrement, qu'aucun financier n'en voulait, alors que selon plusieurs employés, eh bien l'équipe n'avait peut-être pas eu tout le soutien de Britannia Media, la boîte qui les possédait, au moment justement de trouver des financeurs pour continuer le projet. Donc on ferme Crop Circle Games, on publie directement sur le site officiel du studio un communiqué qui dit en gros que les gens qui travaillaient sur un jeu chez Crop Circle Games n'ont pas été capables finalement de fabriquer un jeu qui intéresse l'industrie, bref que le jeu n'était pas viable, et c'était la première goutte d'eau d'un immense tonneau dont on va parler ensuite. Donc la fermeture de ce premier studio, elle semble s'être faite dans des conditions d'une certaine violence. Par exemple, on a l'ex-designeuse senior qui s'appelle Jennifer Klaising, qui dit que le studio leur a fait signer un papier qui les empêchait d'aller parler de la manière dont a été fait ces licenciements aux instances américaines de protection du droit du travail, comme la NLRB par exemple, en échange. Signature de ce papier en échange de 2 mois supplémentaires de couverture santé assurés après leur licenciement, 2 mois supplémentaires de couverture santé qui leur étaient normalement dus. Dans le même temps, la société Britannia Media, elle a commencé à licencier la majorité de ses propres employés à elle. Selon certains ex-employés sans la moindre indemnité de licenciement, Jeff Strain a d'ailleurs, dans la foulée, fermé son compte LinkedIn. Voilà, dans les jours qui ont suivi. Ça, c'est le début. Dites-vous que c'est le début. De là, c'est un journaliste de chez Kotaku qui s'appelle Ethan Gack qui a tenté d'établir une frise chronologique de la débâcle en cours actuellement chez Britannia et qui est allé parler à des employés de Crop Circle Games et à des employés de Possibility Space dans le cadre justement d'un article. S'en est suivi un premier contre-feu extrêmement bizarre dans lequel Annie Delisi Strain, donc épouse et associée de Jeff Strain, elle a sorti un communiqué extrêmement long et extrêmement bizarre sur le site de Crop Circle Games et en accusant à demi-mot le journaliste de s'apprêter, pour un article toujours pas sorti on le rappelle, de s'apprêter à sortir et à étaler ses graves problèmes de santé, considérés comme personnels bien évidemment. Se bouscule dans cette espèce de communiqué la volonté très compréhensible d'une femme de garder la main sur ses informations personnelles et sur son intégrité physique, toute une espèce de justification bien patronale de ce qui a conduit Crop Circle à capoter et à licencier tout le monde, dont elle était la patronne, et une fin de texte encore plus bizarre, témoignant, je cite, énormément de compassion à Ethan Gack qui travaille pour un groupe média qui pousse à générer du clic et à satisfaire la régie publicitaire. Elle fait toute une espèce de truc où elle dit voilà, je sais, moi aussi je souffre de voir la presse aux abois de la sorte, faire des procès à des studios pour faire du clic, etc. Bref, le communiqué, il n'est plus sur le site de Crop Circle, puisque le site de Crop Circle a fermé, mais il est disponible dans les archives d'Internet. Mais il faut vraiment le lire, parce que voilà, vraiment le niveau de manipulation et de mélange des sujets y est proprement hallucinant. Surtout quand on sait que justement les groupes médias, notamment anglo-saxons, ne veulent justement plus d'enquête, plus de social, plus de long format. Et voilà donc qu'en milieu de la semaine dernière, les employés de Possibility Space sont arrivés au bureau, donc le deuxième studio, le studio non encore fermé, sont arrivés au bureau pour apprendre qu'ils étaient toutes et tous licenciés, sans exception, avec effet immédiat. Au motif, probablement le motif le plus ouf jamais brandi par un patron de studio à mon sens, et pourtant ça fait des années qu'on les chronique ici, à savoir eh bien justement cet article toujours pas sorti sur lequel travaille le journaliste Ethan Gack. Donc Jeff Strain, évidemment, doit justifier auprès de ses équipes qu'il vient de les licencier toutes et tous, et donc il explique qu'il a été contacté par un journaliste de Kotaku qui avait pu s'entretenir justement avec différents employés et ex-employés de son groupe de Britannia Media. Et à partir de là, Strain va s'engager dans une espèce d'histoire absolument incroyable, rocambolesque, au cours de laquelle en fait les témoignages des sources qui ont parlé à Kotaku font que Kotaku sait sur quoi travaille le studio Possibility Space et avec quel éditeur ils font ça, que ça a fâché l'éditeur, qu'il a convoqué séance tenante pour lui annoncer qu'il n'était plus chaud pour continuer à financer le projet d'une société qui ne sait pas tenir sa ligne en matière de confidentialité. Je cite « Alors, nous avons décidé d'un commun accord d'annuler votre jeu. La conséquence de cette annulation et la fin de notre collaboration avec l'éditeur, c'est que je ferme Possibility Space. Aujourd'hui est votre dernier jour en tant qu'employé de Possibility Space et Britannia Media. Votre dernier chèque incluant la journée d'aujourd'hui vous sera bientôt envoyé. Nous déterminerons plus tard ce que nous vous devons en matière d'indemnité. » C'est littéralement le mail qui a été envoyé à l'équipe. Vous avez parlé aux journalistes, ça a fâché un éditeur. Genre, l'éditeur va se retirer d'un projet sur lequel on travaille depuis quoi, 2 ou 3 ans et avoir une perte sèche parce qu'il y a un article pas encore sorti dont on ne connaît pas le contenu. Non, pas à nous avec les fariboles, s'il te plaît. De là, on a un patron qui appelait l'industrie du jeu vidéo à se syndicaliser en masse en 2021, qui vient de fermer violemment 2 studios coup sur coup et d'attribuer la fermeture du 2e à la voix gênante des travailleurs et des travailleuses et à un article de presse de Kotaku qui n'a toujours pas été publié à l'heure où on parle. Alors, soit ce qu'avait découvert Ethan Gack effectivement était absolument délirant et Jeff Strain vient de jeter un studio entier sous le bus dans l'espoir de manipuler l'opinion contre la sortie de l'article. Soit, plus probable, Britannia Media était sur une pente définitivement descendante et le dernier leg de son PDG, c'est un peu plus de sentiments anti-presse et anti-journaliste distillés dans les discussions jeux vidéo. En tout cas, ça donne forcément envie de citer Jeff Strain en 2021, quelques jours après les premières enquêtes sur la culture toxique au sein de Blizzard. Les syndicats existent dans ce pays pour protéger les travailleurs des comportements abusifs, cruels, odieux et illégaux du patronat. Si cette semaine ne démontre pas combien tous nos collègues, même le plus junior des agents de QA, a besoin de soutien et de protection, je me demande bien jusqu'où il faudra qu'on sombre pour que le message passe. Ah oui, c'est sûr, hein. C'est compliqué. De son côté, on avait son épouse qui postait il y a quelques mois seulement sur LinkedIn « Les licenciements de masse sont le résultat d'un mauvais management, d'une vision stratégique lacunaire et de mauvaises prises de décision. Les développeurs ne sont pas des Legos qui se jettent dès lors qu'on n'a plus besoin d'eux. Ce sont des humains avec des familles, des animaux, des amis qui comptent sur eux. » Je citerai donc pour terminer Jarod chez Gamekult quand il dit que si l'épreuve personnelle que le couple Strain est en train de traverser avec la maladie de Annie Delicy Strain est effectivement horrible, l'exercice de communication auquel les deux sont en train de s'adonner ces derniers jours est tout bonnement dramatique et mériterait d'être étudié dans les écoles. Voilà donc comment 2 studios, on va dire AAA compatibles, sont nés entre 2021 et 2022 sous une série d'impulsions immenses avec des très très beaux discours pro-travailleurs et travailleuses de gens qui sont, je l'imagine, des millionnaires. Et 2 ans ou 3 ans plus tard, eh bien, le masque du méchant de Scooby-Doo est tombé et il est très clair que tout ça c'était de la flotte du vent et il y a plein de gens qui se retrouvent sur le carreau. Bah justement, puisqu'on parle de syndicalisation, on peut en parler un petit peu là, effectivement, hein, c'est l'instant convention collective et petit point en l'air, tout petit point en l'air, Avalanche Studio, pas celui de Hogwarts Legacy, celui de Just Cause, qui est une entreprise suédoise donc, est désormais composée à 20% de travailleurs et travailleuses syndiqués. Les 100 personnes sur 500 donc qui avaient exprimé leur désir de regroupement l'an dernier se sont bel et bien organisées, se sont bel et bien rapprochées du syndicat le plus en vue là-bas en Suède qui s'appelle Unionen. Et voilà que l'entreprise donc, qui pour rappel a sorti Mad Max, Just Cause, la série, Rage 2, et qui travaille maintenant sur Contraband pour le compte de Microsoft, eh bien elle compte un ou une syndicaliste pour 5 employés, ce qui pour rappel, pour la Suède, est plutôt un non-événement, hein, puisqu'on n'est pas du tout sur la culture d'entreprise américaine. La culture de travail en Suède, c'est 70% de travailleurs et de travailleuses syndiqués au niveau du pays. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le rapprochement entre ce nouveau groupe et un précédent groupe de syndiqués au sein du studio pour aller justement ensemble négocier une meilleure convention collective avec le patronat de l'entreprise. C'est déjà courant en Suède, pour vous donner un petit peu le contexte, que bah, par exemple, voilà, on ait des syndicats suffisamment forts et suffisamment représentés au sein d'un studio pour pouvoir venir influer sur les grilles salariales, sur les arrêts maladie, sur les congés, enfin bref, les conditions générales de l'emploi. Il y a déjà un aspect consultatif auprès des cellules syndicales très importantes. Là-bas, par exemple, les antennes syndicales qui sont bien implantées dans les studios ou dans les entreprises, elles ont même une voix dans certains votes qu'on va considérer comme critiques pour l'entreprise, comme les embauches, comme les licenciements, mais aussi l'ajout ou le retrait de personnes du conseil d'administration de l'entreprise. Donc vraiment l'ajout d'éventuels nouveaux cols blancs au sein d'un conseil d'administration est sur le papier soumis à un vote où les gros syndicats ont aussi quelque chose à dire. Donc vraiment pas du tout la même chose que ce qu'on se raconte d'habitude à propos d'Activision. Mais en revanche, quand on veut influer sur des éléments plus spécifiques à l'entreprise, on part effectivement, on part à la filoche pour faire amender la convention collective, et c'est de ça dont on parle là. Et en fait, on fait amender la convention collective pour une durée de 2 ans, après quoi de nouvelles élections ont lieu, et puis on voit si on renégocie ou non la convention. Pour l'instant, en fait, la cellule syndicale, elle n'a pas communiqué officiellement sur ses objectifs de négociation, mais selon les sources qu'a pu avoir IGN, eh bien, l'un des pivots, ce serait de pousser Avalanche à expérimenter la fameuse semaine de 4 jours. En tout cas, la patronne du studio, dont je vais écorcher le nom, Stefania Aldersdottir, donc vraiment toutes mes confuses hein, pour le massacre en cours, se dit impatiente d'entamer le travail sur cette nouvelle forme de convention. Elle se dit bien sûr persuadée que tout sera fait pour rendre Avalanche plus à l'écoute de ses employés et donc plus à même de fabriquer de bons jeux. Comme quoi, vous voyez, on peut tout à fait raconter du vent et de la flotte sans paraître comme le méchant de l'histoire, comme Bobby Kotick, quoi. Quelques minutes, hein, évidemment, après avoir causé de Jeff Strain, on va prendre bien sûr toutes les pincettes de rigueur si vous le voulez bien, et on va se donner rendez-vous plutôt au deuxième trimestre 2025. C'est la date à laquelle cette nouvelle convention, quelle que soit sa forme, entrera en vigueur au sein de l'entreprise. Deux trucs comme ça qui me viennent avant que je vous dise au revoir pour aujourd'hui. Le premier truc, c'est que SNK vient de faire une immense livraison de jeux sur GOG. Oui, je suis encore le gars qui a du mal à dire GOG parce qu'il pense Good Old Games. Mais effectivement, SNK, par l'intermédiaire d'un studio de portage qui s'appelle Code Mystics, eh bien, vient de livrer 24 jeux rétro sur GOG. Donc, parmi lesquels vous trouverez des jeux issus des licences The King of Fighters, Metal Slug, Samurai Showdown, Art of Fighting, et puis des trucs un petit peu plus niche, genre Magician Lord, genre Mutation Nation, genre Super Sidekicks, voilà, ce genre de jeux. Bref, c'est arrivé tout récemment. Si vous passez régulièrement sur GOG, vous n'avez pas pu rater l'arrivée soudaine, hein, effectivement, de jeux estampillés SNK, à part avec une très grosse offensive. Et ce SNK, ça avait bien été racheté en partie par MBS. Ah, SNK, c'est tout à fait possédé intégralement par le fonds d'investissement public de la couronne d'Arabie Saoudite. Et un autre truc à garder en tête, durant l'hebdo de la semaine dernière chez Origami, on a eu l'occasion de parler de Broken Roads, donc souvenez-vous, ce jeu de rôle post-apocalyptique librement inspiré de Fallout, mais cette fois-ci plutôt du côté de l'Australie. Et je vous ai dit, bah, malheureusement, tout le peu de bien que je pensais de ce lancement, notamment à cause de soucis de bugs, de trucs qu'on peut pas terminer, de combats qui sont vraiment pas à la hauteur, même si c'est de loin pas les seuls problèmes du jeu, qui a beaucoup de choses qu'il fait beaucoup trop en surface. Et figurez-vous que les développeurs de Broken Roads ont vu leurs notes sur Steam et ont été tenus de réagir. Donc vous pourrez trouver sur leurs comptes réseaux sociaux eh bien une sorte de profession de foi pour la suite. Ils s'engagent à travailler sur un certain nombre de sujets par l'intermédiaire d'une feuille de route. En tout cas, évidemment situation compliquée pour le studio qui avait déjà eu tout un micmac avec son éditeur parce qu'ils étaient édités par Versus Evil qui ensuite avait été complètement fermé du jour au lendemain par la maison mère Tiny Build. Ils sont désormais en cheville avec Tiny Build qui doit être dans les premiers à pousser au cul pour qu'ils essaient d'améliorer le jeu à un maximum. Mais j'ai bien peur qu'on se retrouve dans un cas assez classique, celui de l'arbre qui cache la forêt. Oui, on va bosser pour réparer les bugs. Oui, on va bosser pour réparer les trucs qui peuvent être changés. Mais il y a tant de choses qui ne peuvent pas être changées. Ça me rappelle à un tout autre niveau, bien sûr. Ça me rappelle, souvenez-vous, la sortie de Gollum, quand il y avait eu une espèce de communiqué disant on va réparer l'état technique du jeu et on a foi dans la capacité du jeu à se relever et tout le monde était là genre les bugs c'est limite c'est la cerise mais le reste c'est tout ce qu'il y a en dessous hein et le contenu du jeu hein quelque part et Redfall aussi effectivement est un bon exemple de ce genre de damage control post sortie nécessaire parce qu'il y a des problèmes techniques évidents et qu'on peut pas les laisser comme ça parce que surtout pas si on a prévu de faire un autre jeu derrière parce que il faut sauver la réputation quelque part aussi du studio et puis ne pas être trop enterré par l'algo quoi mais en l'occurrence c'est du travail qui doit être assez horrible parce que bon. Si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est raconté autour de Broken Roads, vous avez vu notamment l'article de Isual sur Canard PC, les bugs, c'est qu'une très petite partie du problème. Je vais vous montrer un planning qui est peut-être celui d'Origami pour cette semaine. Peut-être pas, il y a des choses qui peuvent changer en cours de route, mais on avait rendez-vous nous ensemble ce mardi à 10h30. Cet après-midi, vous avez normalement rendez-vous avec le perfide Albion pour continuer la Metal Gear saga. Et si je ne m'abuse, vous allez commencer Metal Gear Solid 3. Ça, c'est plutôt cool. Demain à 10h30, avec moi, vous mangerez les vieux dans la bêta de Frostpunk 2, puisque les gens qui ont acheté la Deluxe Edition y ont accès et nous on y a accès donc j'essaierai de faire une petite découverte du début de bêta avec vous et puis l'après Ori effectivement pour le studio Moon Studio No Rest for the Wicked qui arrive en accès anticipé justement jeudi sur Steam et nous on essaiera de vous le montrer en espérant avoir le droit normalement je crois que j'ai le droit de vous le montrer jeudi à 10h30. Au pire, si vous avez des questions sur pourquoi le planning a changé, c'est probablement que vous n'êtes pas encore sur le Discord d'Origami où il y a un salon où toutes les modifications du planning sont annoncées. Évidemment, il y a toujours des petites modifications, sachant que vendredi, bien sûr, ce sera Origami Lebdo à 13h sur Twitch et puis un peu plus tard, bien sûr, sur Patreon et sur YouTube. Et sachez que du côté de mercredi, pendant que moi je serai en train de manger les vieux, il se préparera des choses qui ne relèvent pas de la diffusion live à propos d'Internet Explorer qui revient bientôt, bien évidemment. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre ? Passez une excellente semaine. Rendez-vous en live sur cette chaîne plusieurs fois, il me semble, avec moi. Et prenez grand soin de vous. Voilà, ça me semble pas mal, cette histoire. Hop ! Vous qui étiez très heureux d'entendre du Tower of Heaven tout à l'heure, en revoilà une petite tranche. Il va y avoir un raid, bien sûr, restez dans le coin. Je tiens à remercier, bien sûr, toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Ça fait extrêmement plaisir. On vous le rappelle, c'est grâce à Patreon que le fonctionnement au jour le jour, au mois le mois, à la semaine d'Origami est possible. Et on est en route vers le très grand symbole pour nous et le début d'une nouvelle ère avec les 10 000 et on espère effectivement pouvoir amener de plus en plus de gens à s'intéresser à ce qu'on propose via ce Patreon. On y propose bien sûr les émissions que l'on tourne, les mensuels que l'on tourne et l'hebdo en avance, un petit peu avant leur arrivée sur YouTube et en podcast. On y propose également depuis peu un petit podcast qui s'appelle Conf de Rédac et qui n'a rien à voir avec une conf de rédac, c'est vraiment de la digression, c'est du off entre copains, pour parler un peu de la vie de la rédaction plus qu'autre chose. Et on va en enregistrer un nouveau cette semaine parce qu'on va essayer de faire ça toutes les deux semaines. Je crois que c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis on y proposera de plus en plus de choses dans les temps à venir. On ne vous dit pas tout pour le moment. Prenez grand soin de vous, merci infiniment pour votre présence, ça m'a fait très plaisir de suivre l'actualité du jeu vidéo avec vous ce matin, et puis bisous, salut. Il dit salut et il trouve plus les boutons lui, il est rigolo.